Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child. Honey child's got me.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, nous allons justement évoquer cette transition entre les pratiques traditionnelles d'hier et les musiques juives d'aujourd'hui. Ce passage, parfois délicat, d'une musique ancrée dans une tradition vécue à une musique mise en scène, c'est-à-dire où il y a d'un côté des artistes, de l'autre côté des spectateurs. Ce passage, donc, est particulièrement flagrant dans notre société moderne et plus spécifiquement dans le répertoire des chansons populaires. En effet, dans le domaine religieux, la musique au service d'un texte sacré, s'inscrit dans un rituel quasi immuable, alors que le contexte d'exécution des musiques populaires a considérablement changé en à peu près un siècle, avec la fin des sociétés traditionnelles juives qui vivaient dans un isolat parfois prononcé. Je pense notamment aux shtetl d'Europe de l'Est, mais également aux communautés séfarades d'Orient et d'Occident, qui ont perpétué leur mode traditionnel de vie jusqu'au bouleversement géopolitique de la première moitié du XXe siècle. Notre émission de ce soir sera donc consacrée à ces phénomènes de mutation, de réappropriation et de mise en scène des musiques judéo-espagnoles. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio François Hazard, qui est vice-président et fondateur des... Pardon, vous êtes vice-président de l'association Aquestamos, dont vous nous direz quelques mots. Je crois que vous travaillez avec Jenny Lannery, qui elle est présidente.
Merci Hervé, effectivement Jenny Lannery est présidente et elle était membre fondatrice effectivement de l'association Aquí Estamos, les amis de la lettre séfarade qui est née en 1998.
Et qui fait un travail formidable dans le domaine de la tradition judéo-espagnole, alors pas seulement de la musique, mais vous organisez tous les deux ans je crois une université d'été.
Absolument, en partenariat avec l'Alliance Israélite Universelle et donc cette année c'est justement une année d'université d'été qui aura lieu du 8 au 13 juillet.
Très bien. Et en attendant, comme vous vous ennuyez un peu, vous avez décidé de vous occuper, là, au mois de mai, ce mois de mai 2018, en organisant donc du lundi 14 mai au vendredi 18 mai donc 2018, un stage de formation au répertoire judéo-espagnol animé par l'ethnomusicologue israélienne Susana Weiss-Charak, assistée du chanteur Kobi Zarco. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce stage? Est-ce qu'il est ouvert à tous? Comment on fait pour s'inscrire? Qu'est-ce qu'on va y faire?
Alors, pourquoi ce stage? En fait, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une demande de musiciens professionnels, pas seulement d'amateurs. Alors, on organisait à l'université d'été, donc en 2015, par exemple, un stage avec Susana Weiss-Charak, qui avait beaucoup de succès. C'était vraiment un des musts de l'université. Alors, on va le refaire encore cette année en juillet, mais on s'est aperçu qu'il y avait aussi une demande de musiciens professionnels aguerris qui connaissaient parfois déjà ce répertoire ou qui voulaient l'acquérir. Et leurs demandes sont évidemment différentes. Donc, on a monté un séminaire d'une semaine qui aura lieu donc du 14 au 19 mai au Centre MEDEM, donc rue René Boulanger. Avec donc deux spécialistes du chant judéo-espagnol, Susana Weiss-Charak est ethnomusicologue, elle est née en Argentine, elle a eu sa formation musicale au conservatoire de Buenos Aires, mais elle a fait ensuite son alia, et elle a fait depuis les années 70 un très grand travail de recueil de chant judéo-espagnol dans les communautés d'Orient et du Maroc, du nord du Maroc. Et Kobi Zarco, lui, il vient de... Alors, il a des origines diverses, hein, de Salonique, d'Istanbul, j'allais dire Constantinople, aussi de Rhodes, par sa famille, mais surtout, il a eu la chance d'avoir une transmission intrafamiliale par sa grand-mère et par sa mère. Et donc, c'est une machine, d'une certaine façon, à remonter le temps.
Formidable. Alors, comme vous le savez, cette émission est musicale. Donc la tradition veut qu'on entende régulièrement de la musique, et ça va être le cas donc de ce premier extrait musical qui fait justement intervenir Kobi Zarco dont on vient de parler, ce chanteur dont vous allez entendre la voix vraiment subtile et intéressante, dans un magnifique double coffret qui a été publié par l'université de Raifa. Ce coffret s'intitule, j'espère que je prononce bien, n'hésitez pas à me corriger, Ventanas Altas de Saloniki. Ça veut dire quoi en judéo-espagnol d'ailleurs?
Eh ben, fenêtre haute de Salonique. Hein.
Voilà, donc c'est consacré aux
musiques.
C'est
un chant, hein. C'est le titre d'un chant.
C'est le titre d'un chant qui a donné donc son nom au coffret, un coffret dont on reparlera et qui est justement, j'allais dire, sous l'autorité scientifique de Susana Veycharac. On en entend donc une des premières chansons, L'homme renico crio el Dio.
Lo moreno crió el Dios, lo blanco y lo platero. Viva la gente morena, que por ellas muero yo. Viva la gente morena, que por ellas muero yo. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres me bautizaron y a las cuatro me casaron. Me casé con un amor, alma y vida y corazón. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime si tienes amante, si no yo te amaré. Dime si tienes amante, si no yo te amaré. A las dos me engrandecí, alma y vida y corazón. En la huerta crecen flores, en la mar crecen corales. En mi corazón amores y en tu boca falsidad. En mi corazón amores y en tu boca falsidad. A las tres después yo, alma y vida y corazón. Indomé para la guerra, dos besos al aire echí. Una es para mi madre y el otro para ti. Uno es para mi madre y el otro para ti. A las cuatro me casé, alma y vida y corazón.
Lo moreno crió el Dio, plus connu également sous le nom La Horas de la Vida, les heures de la vie. François Hazard, quelques mots sur cette chanson que l'on connaît mieux d'ailleurs sous le titre de A la Uno Yonasi.
Exactement. Alors, c'est une chanson absolument passionnante par son histoire. Pourquoi ? Parce que quand on l'écoute, on a l'impression d'entendre un chant traditionnel judéo-espagnol. Eh bien, pas du tout. C'est une erreur complète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un chant populaire andalou qui a été créé à la fin du 19e siècle et qui est arrivé, on ne sait pas très bien comment, par sans doute un port, soit Salonique, soit Istanbul, en Orient. Et là, il a été adopté par les judéo-espagnols. Alors, le premier enregistrement qu'on a de ce chant, en fait, c'est Chaim Effendi, qui était un grand chanteur au tournant du 19e et du 20e siècle. Il l'a enregistré en 1907. C'est les premiers enregistrements phonographiques judéo-espagnols. Et dans cette version que vous venez d'écouter, qui est une version, en fait, originale, d'ailleurs, on entend un élément qui atteste justement l'origine espagnole, c'est Alas Dos. Mais baptisaron au deuxième temps, ils m'ont baptisé. Mmh. Donc, las horas de la vida, c'est évidemment les temps de la vie. Mmh. Donc, c'est un chant qui s'est transformé, qui est devenu un tube judéo-espagnol, qu'on entend chanter sous un autre mode, plus occidental aujourd'hui, un mode aussi résumé, on n'a pas autant de couplets. Donc, cette version, en fait, que chante ici Kobi Zarco, elle est la version, en fait, reprise de Chaim Efendi. On pense que Chaim Efendi est celui qui a récupéré ce chant des Espagnols. On n'a pas d'autres traces avant, écrites en tout cas, de ce chant dans le répertoire judéo-espagnol. Celui qui a permis de faire le lien avec le répertoire espagnol, c'est Moshe Atias, qui était un ethnomusicologue qui a publié en particulier un cancionero sephardi, et où il explique justement l'origine, la trajectoire de ce chant.
Alors là, on vous arrête parce qu'on va se lancer dans... Et chaque chanson a une histoire absolument extraordinaire, et c'est souvent le principe des musiques juives, c'est qu'on pense qu'elles viennent de quelque part, on se rend compte qu'elles viennent de partout et que c'est impossible de savoir qui de la poule ou de l'œuf, où elle est née, d'où elle vient, etc. Mais ça, c'est une histoire passionnante et j'aurais plein de questions à vous poser, mais on va avancer un petit peu dans notre émission. Et vous avez... Cette chanson, en fait, appartient au répertoire des cantigas, c'est-à-dire des chants de la vie populaire. Quoi.
Tout à fait.
Et dans le stage que vous organisez donc avec Aquí Estamos, vous proposez d'aborder ces différents répertoires. Alors, je crois qu'il y a plusieurs répertoires. Enfin, je vois que vous avez le programme sous les yeux, donc je voudrais que vous nous disiez un petit peu rapidement quel va être le programme qui va être abordé par Susana Vecharac au cours du stage. Est-ce qu'on va voir donc ces cantigas? Comment ça va se passer?
Alors, on va aborder en fait le répertoire profane, je précise tout de suite, parce qu'il y a aussi un énorme répertoire liturgique judéo-espagnol. Donc, on va l'aborder sous trois grands volets, en fait. Le premier, c'est les romanceros. Le romancero, c'est-à-dire les romances, qui sont des ballades, en fait, qui nous viennent du Moyen-Âge ou de la Renaissance espagnole, et que, en tout cas, les textes nous viennent de cette période-là, qui ont été importés, donc, en Orient et au Maroc par la diaspora séfardi. Ils ont continué à créer des romances dans le contexte de la diaspora, dans le contexte de l'exil. Donc on a aussi des romances même qui ont été créées au début du XXe siècle. C'est un répertoire en fait qui est ce sont des ballades narratives, donc elles racontent toute une histoire. C'est un répertoire plutôt féminin qu'on utilisait surtout, on le chantait en particulier comme berceuse en fait, voilà, la naissance des enfants. Donc c'est un peu comme ça qu'il se transmettait. Les textes sont versifiés, hein, donc c'est rimé. Et c'est des textes assez longs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un répertoire qui est peu chanté, peu pratiqué, parce que, voilà, si on le chantait dans toute son intégralité, un romancé, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure.
C'est un peu l'ancêtre c'est l'équivalent des chansons de gestes, un petit peu.
Absolument. Alors ça, c'est un des volets. Donc, il y a les coplas, coplas paraliturgiques, donc, qui est un répertoire, lui, plutôt masculin, qui, contrairement à l'origine chrétienne des romances, c'est un répertoire écrit par des juifs, pour des juifs, écouté par des juifs, sur des thèmes juifs. Il est écrit, alors que les romances, c'est souvent des textes qui se transmettaient de bouche à oreille. Les coplas, on a une tradition aussi orale, mais qui a été très, très souvent mise par écrit dans des petits livrets et qui accompagne en fait souvent des fêtes religieuses. Par exemple, il y a des coplas des Pourim ou bien des événements marquants comme des incendies. Et puis, il y a ce qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire les cantigas. Les cantigas, c'est un répertoire très populaire. Ça ne raconte pas, contrairement aux coplas et aux romances, une histoire. C'est quelque chose qui exprime un sentiment. La joie, la peur, la tristesse, le deuil, etc. Donc,
mais quand vous dites que c'est écrit, en fait, c'est tardif, parce que pendant très longtemps, vous l'avez dit, ça a été véhiculé par la seule tradition orale. Le premier écrit de texte, est-ce que vous avez une idée de
la date ? Alors, pour les coplas, ont été écrits dès la période pré-exilique, c'est-à-dire en Espagne médiévale, en Espagne de la Renaissance, on a des textes. Après, il y a une espèce de trou que les historiens n'arrivent pas à s'expliquer. Et on retrouve au début du XVIIIe siècle, par exemple, les coplas d'Abraham de Toledo, qui sont très connus. Eh bien, c'est un texte qui date de 1732.
Donc il y a un gros trou.
Voilà.
Alors on va faire une deuxième pause musicale avec justement un romance qui est extrait toujours de ce double album Ventanas Altas de Saloniki. Donc cette air intitulé Tres Damas von a la Misa, ce qui veut dire quoi en fait exactement?
Alors trois dames vont à la messe, donc là aussi on voit bien l'origine chrétienne, même si dedans il y a des marqueurs juifs qui apparaissent.
Alors justement le récit c'est quoi? C'est tout simplement une très belle femme qui entre dans une église et sa beauté trouble le prêtre et les autres fidèles. Et dans sa version séfarade, parce qu'il y a toujours une particularité, le récit se finit de manière heureuse, pour une fois d'ailleurs dans la tradition séfarade, puisque la femme rencontre son bien-aimé qui arrive à temps, alors qu'elle allait finir par se marier avec, selon les versions, ça peut être le pape carrément, le duc ou un musicien.
Un musicien.
Et la musique de cette chanson est d'inspiration occidentale, comme on va l'entendre.
Tres damas van a la misa por hacer la oración. La de medios, mi querida, linda de mi corazón. La de medios, mi querida, linda de mi corazón. Sayo lleva sobresayo y un yugo y de alta nación. Camisa de Holanda lleva, sirma y perla al cabezón. Camisa de Holanda lleva, sirma y perla al cabezón. Su cabeza bala de oro, sus cabellos briles son. Cuando se mete a peinarlos, en ellos despunta el sol. Cuando se mete a peinarlos, en ellos despunta el sol. Los sus ojos lindos pretos, biznas de Estambul ya son. Su nariz perfilada, las sus caras flores son. Su nariz perfilada, las sus caras flores son. La su boca chiquitica, que no cabe ni un piñón. Los sus labios correlados, merjanes rubios son. Los sus labios correlados, merjanes rubios son. Los sus dientes muy menudos, perlas de enfilar ya son. Ya se viste, ya se endona, para la misa partió. Ya se viste, ya se endona, para la misa partió.
Tres damas van a la misa, donc un romance justement extrait de ce très bel album Ventanas Altas de Saloniki, publié en 2013 par l'université de Raifa. Et comme on l'a vu, et comme ce sera le cas dans le stage que vous organisez avec Aki Stamos entre le 14 et 18 mai 2018, donc ce répertoire de chants judéo-espagnols qui a été conservé et transmis par les juifs séfarades. C'est presque un conservatoire au sens réel du terme, là, qu'on entend là, dans le sens de conservation et de transmission musicale, avec des changements, bien sûr, hein, mais c'est surtout les textes qui ont été transmis. Et dans ce disque, il y a donc ces trois genres. On a entendu donc un exemple de cantiga, un exemple de romance, et il nous manque donc un exemple de coplas. Et on va donc entendre dès à présent cet exemple. Il s'agit d'un copla lié à la fête de Purim, Alabar Quiero el Dio, la célébration de Purim. Alabar Quiero el Dio, ça veut dire quoi?
Ah ben, louons Dieu. Hein.
Louons Dieu, tout simplement. On est donc dans un thème typiquement lié à la vie juive, à la fête de Purim en l'occurrence. Et donc, on l'écoute dès à présent.
Alabar quiero al Dios
Empecemos a beber día y la noche hasta hora doce. Tenemos de ayuntar todos los vecinos para tañer y cantar y probar los vinos, troquen marachinos y que den bachis. Salchichas metan al shish, las mesas bien muertas, frutas y salatas. Que el alde este Purim es de abrir las manos, diciendo a la Kerim que viva hermanos, coman indiano, sofrito y kebab. Cada uno su herpab, ordren en las mesas sin haber manquesas.
Louons Dieu, alabar quero al Dio, chanté ici par Orit Perlman, toujours extrait donc du CD Ventanas Altas Thessaloniki de l'université de Raifa. Une très belle musique, une très belle chanson. Hein. Place. Et on entendait derrière un instrument d'ailleurs à cordes frappées, peut-être un genre de cymbalum en quelque sorte. Mais en réalité, souvent ces chansons n'étaient pas accompagnées, non ?
Alors, effectivement, toutes ces chansons, elles accompagnent le cycle de la vie. Donc, c'est des chansons qui sont soit chantées lors de fêtes, alors avec des musiciens dans ces cas-là, soit musiciens qui ne sont pas forcément d'ailleurs des musiciens juifs, qui peuvent être des musiciens tziganes, turcs, voilà, d'autres origines. Et puis surtout, elles accompagnent la vie domestique, hein, les travaux, en particulier, je sais pas, la confection par exemple du trousseau, les travaux longs, les travaux, la cuisine. Donc on a beaucoup de chants qui parlent justement de la nourriture, mais c'est pas par hasard, on les chantait dans des contextes où on préparait la cuisine. Donc c'est des chants qui sont... Alors il y a des répertoires pour les femmes, il y a des répertoires pour les hommes, ils ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est dans un contexte traditionnel, ça accompagne la vie. Ça, je pense que c'est très important de comprendre ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus... on est sorti de ce contexte et qu'on aborde une autre période qui est la période de la patrimonialisation, c'est que ça n'accompagne plus effectivement notre vie quotidienne.
Et c'est donc pour ça que ça fait parfois bizarre aujourd'hui d'entendre ces chants chantés à voix nue, ce qu'on appelle a cappella, parce qu'aujourd'hui on a tendance à enrober ces chants d'instruments, et donc ce qui pose un problème parfois d'interprétation, on va en parler. Mais ce phénomène n'est pas complètement récent, il a commencé au cours du XXe siècle déjà, parce que le XXe siècle a été un siècle un petit peu de révolution, de mutation dans le monde judéo-espagnol. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont finalement les principaux facteurs qui ont influencé cette mutation dans les communautés judéo-espagnoles, notamment ?
Alors, je pense que d'abord, il faut, sur cette notion de tradition, il y a toujours une notion dont on parle, l'authenticité. Voilà, les gens disent que ce n'est pas authentique, etc. Moi, je voudrais un peu tordre le cou à cette notion d'authenticité, parce que, en fait, ce qu'on appelle authentique, c'est simplement souvent ce qu'on a entendu, un disque auquel on s'est attaché, un chanteur auquel on s'est attaché, qui nous a parlé. Mais l'authenticité, on ne sait pas très bien à quoi ce se réfère. Si on regarde, en fait, par exemple, au XIXe siècle, on a un témoignage, par exemple, qui est extraordinaire, c'est celui de Saadi Bessalel Halevi, qui est le premier à avoir écrit un journal de sa vie, au milieu du 19e siècle. Je crois que ça commence même en 1830 ou 1840. Et on a une chance, c'est qu'il était aussi chantre. Et donc, il y a tout un chapitre où il explique comment il fabriquait des chants judéo-espagnols paraliturgiques. Eh bien, il avait un maître qui était turc. Il allait étudier donc des makams turcs, donc des chants, chants modales en fait, avec ce grand maître, et il adaptait dessus des textes liturgiques, et il allait ensuite les chanter à la synagogue. Alors le rabbin se fâchait toujours en disant mais attention, tout ça c'est des airs turcs, ça va pas. Ouais. Alors il lui disait oui, mais regardez, on a celui-là, on les chante depuis des siècles, et ils sont aussi sur des airs turcs, donc. Finalement, ça finissait par passer. Donc, cette notion de tradition, en fait, on n'arrêtait pas d'inventer et on n'arrêtait pas d'être en contact. Donc, c'est une musique qui n'a cessé d'évoluer. Les textes sont effectivement... Il y a une plus grande survivance. On parlait justement des ballades du Moyen-Âge. C'est des ballades qui se sont maintenues sous l'angle des textes, mais pas du tout sous l'angle des mélodies. Les mélodies, elles changent tout le temps. La vraie révolution, si je puis dire, s'il y a une révolution, elle intervient à la fin du 19e siècle, au début du 20e, où arrive massivement, avec l'Alliance israélite universelle, la mission laïque française, mais aussi les écoles des pères, hein, les Lassalliens en particulier, des chants venus d'Occident, des chants de France, mais on a vu aussi des chants d'Espagne, les airs d'opéra italiens aussi, qui sont très appréciés des judéo-espagnols, la Traviata par exemple, qui va être adaptée sur un chant célèbre du répertoire judéo-espagnol. Et là, Adio Querida, absolument. Et donc, on a en fait l'entertainment, l'industrie du divertissement, qui arrive très tôt à Salonique ou à Constantinople ou à Izmir. On parlait de Chaim Effendi. Ben Chaim Effendi, il va plus chanter dans des contextes qui soient familiaux, ou enfin, il va le faire aussi, mais il va aller dans des méhanés, dans des cafés chantants qui sont en train de d'émerger, et puis il va enregistrer aussi. Et ça change tout, parce qu'il y a le format du disque, et donc le format du disque, ça marche pas pour les romances. Donc il va inventer, Chaim Effendi, qui est le premier à enregistrer massivement des titres judéo-espagnols, il va inventer le répertoire contemporain, classique, judéo-espagnol, que les judéo-espagnols vont ensuite emporter dans l'exil avec eux, à Paris, à New York, à Seattle, un peu partout, à Milan. Et ce répertoire, il va devenir un peu un canon. Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle authentique, en fait, c'est ce que chantait Chaim Effendi en 1907. Mais ce que chantait Chaim Effendi en 1907, c'est quoi? C'est des airs empruntés au tango argentin, des habaneras, des boléros, et puis si on va un peu plus loin dans les années 20 ou 30, on verra Sadiq et Gazoz, eux ils vont adapter des foxtrots, des charleston. Alors voilà, si c'est l'authenticité, c'est une authenticité un petit peu artificielle.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose dans le monde entier, dans toutes les communautés juives. Si on s'en tient par exemple à la musique klezmer, ça a été exactement la même chose, c'est-à-dire que l'arrivée de l'industrie phonographique a fait que par exemple ça a influencé complètement la formation musicale, parce que traditionnellement c'était plutôt des instruments à son doux, les violons, les violoncelles, contrebasses, etc. Et puis, mais ça passait pas très bien, quoi, avec les moyens d'enregistrement, donc les gens se sont mis justement à des instruments à vent qui étaient beaucoup plus faciles à enregistrer, et les morceaux ont été considérablement raccourcis. Et c'est pareil, ce qu'on appelle traditionnel vient effectivement de cette période charnière du tournant du XXe siècle, où on a fixé, que ce soit sur la cire des cylindres d'abord, puis des 78 tours, ces airs-là qui sont devenus, comme vous l'avez très bien dit, des canons, et que dont tout le monde s'inspire aujourd'hui en disant c'est l'authentique tradition. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, l'authenticité n'existe pas, je le répète sans arrêt, les musiques ont toujours évolué. Qui aujourd'hui voudrait chanter la même musique qu'il y a 100 ans, 200 ans, et encore moins 500 ans? Quand on me dit c'est la musique du roi David, ça, c'est pas possible. C'est absolument impossible, même dans le domaine, et surtout dans le domaine religieux. Alors, on pourrait parler des heures, mais je voudrais qu'on écoute une pièce justement de ce répertoire dit moderne, et c'est vraiment intéressant, puisque donc elle a été écrite, là, on en connaît parfaitement les auteurs, hein, c'est Shlomo Reuven et Isaac Tzion. Ils ont écrit un Esther, je savais même pas qu'il existait donc une pièce d'Esther en judéo-espagnol. Donc je la connaissais version côté yiddish, je connaissais bien sûr la version italienne baroque, baroquisante, etc., ou amstello-damoise. Et là, j'ai trouvé ça absolument passionnant, donc je vous propose écouter un extrait de malheureusement, c'est juste un acte, une scène pris, mais il faut retrouver l'intégralité peut-être de cette opéra s'il a été enregistré, et de cette pièce de théâtre musical, pardon. Donc, c'est tout simplement l'acte de scène 3, Esther to Lucia Figura.
Figura es como sol en la relumbra.
Que me vale mi hermosura, yo debo siempre suspirar.
Tus ojos, oh Esther, son como un lucero grande.
Pièce de théâtre musical intitulée Esther, donc forcément liée à la fête de Pourim, écrite en 1932 par Shlomo Reuven et Isaac Tzion, et ça se passe dans le monde judéo-espagnol. Et c'est une vraie surprise pour moi. Et alors, on en discutait, on était en même temps en train de danser un peu sur ce rythme de tango. Mm-hmm. C'est l'influence de ces danses, c'est assez incroyable, de tout ce qui venait de l'Espagne, cette mode presque, qui a inondé non seulement donc, l'Empire ottoman, enfin, le Maghreb aussi, et la France. Enfin, on trouve ça partout, c'est assez incroyable. Vous disiez que vous étiez en train de citer plein d'anecdotes, qu'il y a eu des troupes, des musiciens espagnols qui sont passés dans l'Empire ottoman.
Oui, Victoria Camprí, qui s'est ensuite mariée avec un très grand compositeur espagnol, Joaquín Rodrigo. Victoria Camprí, qui est née donc à Istanbul, Constantinople, au tout début du XXe siècle, elle raconte dans ses mémoires qu'elle allait écouter des zarzuelas, qui des musiciens, donc des chanteurs lyriques espagnols, qui venaient se produire à Istanbul. Il y avait aussi, bien sûr, l'influence de l'opéra italien. C'est vraiment une période où il y a, on parle de musique à la franca ou à la turca. Il y a un peu la lutte des jeunes barbes et des vieilles barbes à cette époque-là. Donc les grands-parents qui veulent écouter encore à la turca, donc avec les airs orientaux qui continue en fait d'exister, et les jeunes qui au contraire luttent pour imposer des mélodies plus occidentales, la modernisation. Évidemment, tout ça se déroule sous un fond de bouleversement politique, économique. Il y a évidemment l'appel de l'immigration vers l'Occident, le mirage de, ou en tout cas le rêve de l'Occident. Et ça se ressent évidemment dans la musique.
Et puis il y a eu des changements géopolitiques à Salonique en 1923, c'est les Grecs arrivent. 1913, pardon, les Grecs arrivent. Il y a eu également cet appel avec la création de l'État d'Israël, enfin la Palestine et cette immigration massive. Enfin, c'est une période où ça bouge énormément.
Ouais, on a des chansionnistes qui apparaissent. Voilà, donc effectivement, c'est tout. Il y a tout ce contexte effectivement socio-culturel qui est essentiel pour comprendre cette musique.
Et l'évolution de cette musique au fil du XXe siècle. Et il y a eu la même chose au niveau de la littérature, je crois, juste...
Oui, bien sûr. Alors, la littérature, c'est un peu... Là, on écoute des chants judéo-espagnols, donc ils sont chantés en judéo-espagnol. Dans la littérature, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un basculement des élites vers le français. Ce qui fait que très vite, alors vers le français, mais il y a aussi l'italien, l'allemand. Hein, donc, mais très vite, les élites vont se mettre à publier des livres dans les langues de l'Occident. Et donc, les publications qui demeurent en judéo-espagnol, parce qu'il y en a, il y a des journaux en judéo-espagnol, il y a des livres en judéo-espagnol, c'est d'abord destiné à un public moins cultivé, plus populaire. C'est une langue assez verte. Et donc, là, il y a vraiment un schisme qui ne se déroule pas de la même façon, sans doute, en matière musicale.
Merci pour toutes ces explications. François Hazard, on n'arrêterait pas de vous entendre, mais on a deux autres invités dans ce studio et qui sont donc Xenia D'Ambrosio. Bonjour. Et José Canales.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Alors, tous les deux, vous faites partie du groupe Los Bilbilicos. Ça veut dire le rossignol, je crois.
Los Bilbilicos, oui. Ce sont les rossignols en judéo-espagnol.
D'accord. Et vous êtes que dedans cet ensemble ou il y a des musiciens qui participent ou qui...
Alors, nous sommes accompagnés par différents musiciens. Pour certains programmes, par une pianiste, Juliette Sabat. Mmh. Pour d'autres programmes, par Rémi Yulzari à la contrebasse et Richard Nicolas à la guitare.
Alors, on va vous entendre tout à l'heure. Donc, mais alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, votre point de vue m'intéresse parce que vous allez participer, justement, je crois, à ce stage concernant la musique judéo-espagnole qui a lieu entre le 14 et le 18 mai. 18 ou 19 mai, d'ailleurs.
Alors, 18, c'est la fin du stage. Le 19, on ne l'a pas dit, mais ça va se terminer par un grand concert à la Péniche Anaco, jam oriental, si je peux dire, jam judéo-espagnol, jam séfardi, donc avec Kobi Zarco qui fera un mini-récital. Et puis... tous les musiciens participant au stage sont les bienvenus pour l'accompagner.
Alors, votre présence est particulièrement intéressante parce que vous allez faire ce stage et moi, j'aimerais un peu comprendre, et nos auditrices et auditeurs aussi, pourquoi. C'est-à-dire que, bon, manifestement, vous êtes trop jeune pour être né dans la Salonique d'avant-guerre ou dans toute autre métropole judéo-espagnole. Ça signifie que cette musique judéo-espagnole que vous chantez ne vous a probablement pas été transmise par imprégnation, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris sans l'apprendre. C'est ça, l'imprégnation, on entend, puis on n'apprend pas, on répète, c'est tout. C'est comme ça que ça se transmet. Mais vous avez dû probablement vous réapproprier ce répertoire, et c'est le fameux phénomène de réappropriation dont on a parlé au début de l'émission, de patrimonialisation qui a été notamment étudié par la musicologue Jessica Roda, que j'aurai le plaisir de recevoir début juillet dans cette même émission à l'occasion de la sortie de son livre « Se réinventer au présent, les judéo-espagnols de France, famille, communauté et patrimoine musical ». Donc voyons, on reviendra sur le sujet. Alors, je vais m'adresser à vous... Vous m'excuserez, José, je vais être galant avec Xenia en premier. Ma question donc est la suivante, Xenia. Comment en arrive-t-on aujourd'hui à chanter de la musique judéo-espagnole quand on n'est pas forcément né dans cette tradition? Autrement dit, comment vous êtes arrivée sur cette voie-là?
Alors, j'ai commencé par la musique classique, très jeune, donc j'ai fait tout un cursus de conservatoire, de chant, mais j'ai toujours eu en tête le fait que mes grands-parents et arrière-grands-parents venaient du Maroc, de famille judéo-espagnole, que du côté de ma grand-mère, en tout cas, ils parlaient le judéo-espagnol, et ils parlaient aussi le judéo-arabe. Je pense que mon grand-père aussi, les Shabbats, allait dans des groupes de musique, chanter de la musique judéo-arabe. Donc j'ai entendu ces langues, j'ai senti cette culture. Je suis quand même imprégnée de ces origines, malgré tout. Et ça a toujours trotté dans ma tête, en fait, le fait de me reconnecter, de reconnecter donc tout ce que j'ai accumulé en tant qu'étudiante et que musicienne classique, de reconnecter ça à mon patrimoine culturel et familial.
Mmh. Et vous, José, c'est peut-être un peu le même, la même histoire, ou c'est autre chose encore?
C'est un peu différent, c'est une histoire d'amour.
D'accord.
C'est très touchant pour un Espagnol de savoir qu'une communauté entière parle encore ta langue après tant de siècles, et qu'on peut trouver dans cette musique tout ce qu'on trouve dans la musique populaire espagnole, et qu'on peut vraiment avoir des liens qui restent à travers la musique, la culture, la langue et la musique, et qui sont tellement liés dans ces répertoires. Et du coup, j'ai rencontré Xenia il y a des années, et puis on se connaissait. Et un jour, on s'est dit, pourquoi, puisqu'on est espagnol et d'origine judéo-espagnole, on jetterait pas un œil sur ces répertoires? Et on est tous les deux, je pense, tombés amoureux très vite de la musique judéo-espagnole, et on a eu envie de la faire ensemble.
Donc dans les deux cas de figure, c'est une retrouvaille, en fait. Et vous êtes retrouvés tous les deux pour ces retrouvailles, que ce soit avec vos origines ou ces musiques espagnoles.
Mais José et moi, on a quand même un background un peu commun au niveau de notre parcours de musicien, parce qu'on a fait tous les deux beaucoup de musique baroque, avec pas mal d'ornementation, tout ça. Donc on est quand même sur un peu la même longueur d'onde, on se comprend. Et ça nous aide aussi beaucoup.
Oui, une ouverture d'esprit, une façon de retravailler les partitions qui est commune à la musique baroque, au jazz et à la musique judéo-espagnole, puisqu'on est tout le temps en train de créer quelque chose.
Alors, on va entendre ce que vous avez créé. Vous nous avez amené un extrait. Donc, je pense que c'est d'un extrait live d'un concert avec, justement, vous êtes tous les deux, vous chantez, et vous êtes accompagnés de Rémi Ulzari à la contrebasse et de Richard Nicolas à la guitare.
Que tienes muy feliz, levanta.
Jaco, Alevanta Jaco par Los Bilbilicos, il faut bien prononcer, avec Zenia D'Ambrosio, José Canales, qu'on a le plaisir d'avoir dans ce studio ce soir, et puis Rémi Ulzari à la contrebasse et Richard Nicolas à la guitare. Et le disque n'est pas encore paru, mais je suis sûr qu'il va paraître. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, on entend plein d'influences dans cette musique. Malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler tout dans le cadre de cette émission. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir en vraiment quelques mots, c'est qu'est-ce que vous attendez du stage que vous allez faire? En quoi ça va enrichir votre pratique et votre approche du chant judéo-espagnol?
Alors, comme on est assez nouveau, on va dire, dans la musique judéo-espagnole, parce que ça fait que quelques années qu'on s'est penché dessus, je pense qu'il y a, pour ma part, il y a l'aspect ornementation qui m'intéresse beaucoup, peut-être parce que j'ai fait de la musique baroque, donc je suis très attachée à l'ornementation. Je voudrais connaître dans les détails les différentes traditions, approfondir aussi la langue judéo-espagnole, et puis découvrir du répertoire, tout simplement, et des manières de le chanter, ouvrir des horizons.
Et vous, José, en trois mots?
La même chose. Vous
étiez fait pour vous rencontrer,
voilà,
alors.
Oui, je crois qu'elle a tout dit.
Eh bien, écoutez, il me reste encore une chose à voir, parce que le temps passe très vite en votre compagnie. Il faudra qu'on se revoie, j'en suis persuadé. Je voudrais laisser la parole à François Hazard, parce que je crois que François Hazard, vous allez publier sous peu un CD qui s'intitule « Joyas Tema », chant judéo-espagnol et grec de la mer Égée, avec la chanteuse Daphné Critaras, accompagnée au piano. Alors, il y a plein d'arrangements magnifiques à la guitare et au chant, percussions orientales. Et alors, déjà, juste avant qu'on en écoute un extrait pour mettre en appétit nos auditrices et auditeurs, parce que c'était un très très beau disque, juste une question. Vous avez publié des livres, les éditions Lior, c'est vous. Et là, hop, vous sortez un CD. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure en deux mots?
Bah, j'ai envie de dire comme José, c'est une histoire d'amour.
L'amour est partout.
L'amour de la musique. Le fait aussi que les disques ont une chance par rapport aux livres. C'est vrai que c'est difficile de publier des livres en judéo-espagnol. Il faut le faire en édition bilingue. Le chant, ça permet de faire passer la langue. Donc ça, c'était important pour moi. L'autre chose qui est importante, j'ai dit, c'est une histoire d'amour, c'est l'émotion. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui, on parlait de ce phénomène de patrimonialisation. En fait, on se rend compte que plus on creuse, plus on connaît, plus on se libère de préjugés et plus on est libre, en fait. Plus on se rend compte que par rapport à ce répertoire, on peut s'en emparer. Et c'est faux de dire que la beauté, l'authenticité est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, ce répertoire qui est libre, qui s'est détaché de la tradition, qui s'est détaché du contexte, de sa fonction, on peut s'en emparer pour faire des choses extrêmement belles, peut-être plus belles même que tout ce qui a pu exister auparavant. Et c'est un peu le défi qu'on a essayé enfin que les musiciens, moi je suis vraiment à leur service, hein, comme éditeur, producteur. Je pense que c'est un peu ce cadeau qu'ils nous ont fait, d'avoir une émotion au bord des lèvres. Ils ont d'abord compris évidemment de quoi il s'agissait, ces chants. Ils ont travaillé aussi avec Marie-Christine Varol. Et là, on va voir effectivement ce que ça donne.
Eh ben, merci de nous faire ce cadeau en avant-première. On reparlera de votre disque, bien sûr, lorsqu'il sera sorti sur le site de l'Institut européen des musiques juives. On en entend tout de suite un extrait.
Si en drachmas el día tomo, ya te puedo mantener. De tu madre no la como. Maná, que te quiero detener. De tu madre no la como. Ay, maná, que te quiero detener. Vamos a la Palestina, ay, maná, para no más rovinar. Vamos a la Palestina, ay, maná, para no más rovinar. Ah,
Un extrait seulement pour vous mettre en appétit de la très belle chanson « Vamos a la Palestina, sin dracmas ». C'est une chanson donc qui explique justement l'émigration en Palestine, mais vous retrouverez certainement cette chanson dans une autre émission qu'on consacrera peut-être à ce disque, en tout cas j'espère, qui s'intitule « Joyas Lemar », un disque en attente. Écoutez, notre émission doit malheureusement se terminer. Derrière sa cabine, je vois Lucien qui nous fait des signes dans tous les sens. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, en votre nom, je remercie infiniment Françoise, Xenia D'Ambrosio Merci. Et José Canales d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle donc la tenue du stage de formation au répertoire judéo-espagnol animé par Susana Becharac et Kobi Zarco. À noter que ce stage est prioritairement destiné à des musiciens, chanteurs, étudiants et chercheurs en ethnomusicologie, donc plutôt des professionnels ou semi-professionnels, et qu'il est ouvert gratuitement sur réservation préalable. Plus de renseignements sur le site d'Aquestamos et bien sûr sur celui de l'Institut Européen des Musiques Juives, dont je redonne l'adresse très rapidement: www.iemj, les initiales de l'Institut européen des musiques juives, donc iemj.org. Nous aurons l'occasion de reparler prochainement donc du patrimoine musical judéo-espagnol avec Jessica Roda le 3 juillet prochain. Entre-temps, le mardi 5 juin, toujours à 21h, Théa Hertz nous présentera l'origine et l'histoire peu connue de l'hymne national israélien, la Hatikva. Et pour mémoire, cette émission Musique juive d'hier et d'aujourd'hui a lieu toutes les 4 semaines, mais vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur le site de l'Institut européen des musiques juives, donc www.iemj.org, et bien sûr sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, Lucien à la technique, et on le remercie. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child, honey child.